Soyez alerte, la chronique que voici pourrait vous déranger. Tel un moustique qui pique. La chronique du moustique avec le sismologue à la retraite de Lucac, Reynald Duberger.
Non, mais mon lest est moins skidon.
Ça a été des images assez saisissantes au cours des dernières semaines. Et au cours de la dernière semaine, ces feux de forêt, ces incendies qui ont lieu du côté d'Hawaï. On parlait de feux de forêt, mais ça a touché également des résidences, des villes aux abords de la mer. Il y a même eu des décès, ça a touché des vies. On n'avait pas l'habitude de voir ce genre d'incendie du côté d'Hawaï. Normalement, quand ça touche un incendie...
Non, Hawaï, c'est plus des éruptions.
C'est ça, c'est des éruptions volcaniques. Mais des feux de la sorte, c'est un peu assez rare. Bon, on va en parler avec Reynald Duberger, notre moustique qui est de retour pour une autre saison. Reynald, bienvenue.
Bonjour.
Assez saisissant, les images qu'on a vues du côté d'Hawaï.
Oui, en fait, on va essayer de voir quelles sont les causes ou la cause principale de cette catastrophe-là. Hawaï, il faut d'abord dire que c'est un complexe volcanique assez spécial en plein milieu de l'océan Pacifique. C'est ce qu'on appelle un point chaud par rapport aux volcans plus normaux qui prennent leur source dans la croûte terrestre. Les points chauds prennent leurs sources volcaniques très profondément dans le manteau de la Terre. On parle de plusieurs centaines de kilomètres. Et ça ressemble beaucoup à... Moi, je suis jamais allé à Hawaï, mais je suis allé au Galapagos en expédition scientifique en 1986, suite au grand feu qui avait dévasté l'île, la plus grande île des Galapagos, l'île Isabella. Alors, nous étions 8 scientifiques en 1986 au Galapagos. Puis c'est là que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de points communs entre l'île de Maui, sur laquelle le feu a pris à Hawaï, et la principale île des Galapagos, Isabella. C'est une île qui comprend plusieurs zones climatiques. Alors, les îles volcaniques, par définition, elles ont un relief très prononcé, très important, ce qui a comme conséquence qu'on a des zones climatiques très différentes d'un endroit à l'autre. Là où le feu a dévasté la ville la ville principale, c'est une zone extrêmement sèche, on est en bordure de la mer, puis plus vous dirigez vers le centre de l'île, plus vous montez en altitude, vous allez traverser des zones climatiques différentes, beaucoup plus humides. La cause de ces incendies-là, c'est la négligence dans la gestion des forêts et la gestion du territoire, comme beaucoup de feux qui ont eu lieu, par exemple, en Californie. Les incendies à Maui ont été provoqués par l'absence de brûlage dirigé, qu'on appelle aussi brûlage contrôlé, des emprises des lignes électriques. Donc, il y avait une très forte probabilité d'inflammation de ces lignes électriques-là sous l'effet du vent. Le brûlage contrôlé, c'est une vieille technique qui est connue depuis même les aborigènes, les Premières Nations, autant en Amérique du Sud qu'en Amérique du Nord. On pratiquait ce brûlage dirigé-là justement pour contrôler les incendies. Revenons maintenant à l'histoire de l'île elle-même. L'île était privilégiée, cette île-là, Maui, pour la production des ananas et de la canne à sucre. Parce que la zone qui a brûlé était très sèche, donc ces ananas et canne à sucre, ça pousse plutôt dans des zones sèches, mais dans ces zones de culture-là, on irriguait à l'aide de l'eau qui provenait des zones plus pluvieuses. Il y a 7 à 8 ans, on a arrêté l'exploitation agricole, on a fermé ça. Le plus personne qui s'est occupé de ces zones sèches-là, l'herbe a poussé, une herbe qui pousse très, très vite. Ça a même atteint 3 mètres de hauteur dans des conditions extrêmement sèches, comme sur l'île d'Isabella. Ça a fait beaucoup de combustible à brûler, ça. Alors, quelle que soit la source d'allumage, ça peut être une étincelle électrique, ça peut être un mégot, ça peut être n'importe quoi, la région de la ville de Lahaina était une torche qui attendait juste une étincelle pour s'allumer. Puis la ville de Lahaina, c'est extrêmement dense, il y a très peu de distance entre les maisons puis entre les commerces. C'est devenu une super torche qui était prête à être allumée. Et puis le feu a progressé très rapidement grâce au vent. Un fait cocasse qui est triste en réalité, c'est qu'il y avait des sirènes d'alerte, mais elles n'ont pas été actionnées parce que ces sirènes-là étaient prévues pour alerté au tsunami et non pas au feu de forêt. Mmh. Hein? Donc, le responsable...
Ah, fait qu'il serait allé vers le feu au lieu hein? d'aller vers la côte, il serait allé vers le centre.
Mmh. Oui. En fait, c'est éloigné du feu. En fait, les sirènes n'ont pas été allumées. Donc, il n'y a pas eu d'évacuation à temps des gens. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de victimes. Pourquoi on ne l'a pas activé? Bon, on le saura peut-être suite à l'enquête qui va avoir lieu. Maintenant, moi, ce que je trouve désolant là-dedans, c'est que les médias et même des politiques ont évoqué le changement climatique pour expliquer. Ça n'a rien à voir. C'est un mensonge. Le climat d'Hawaï n'a pas changé au cours des 10 dernières milliers d'années. Hein? Donc, non, il n'y a pas eu de réchauffement climatique significatif à Hawaï pour expliquer cette catastrophe-là. C'est une catastrophe qui a été causée par l'homme. Hein? L'homme aurait dû faucher les champs autour de la ville sur au moins de 100 mètres à 1 km de la ville pour empêcher la ville de brûler. La ville n'aurait pas brûlé si on avait fait ça. Même chose en Californie, où il y a des maisons qui ont brûlé suite à des feux de forêt. C'est une mauvaise gestion de la forêt. Puis dans notre cas, à nous au Québec, remarquez une chose, si on ne pratique pas l'arrosage des zones dévastées par la tordeuse des bourgeons d'épinettes, on va obtenir des zones des épinettes mortes qui sont des nics à feu.
Des embrasements automatiques, là, ça prend rien.
Exactement.
Oui.
Donc, il va falloir qu'on tire des leçons de ces feux de forêt-là, puis qu'on comprenne les mesures pour que ça ne se reproduise plus. À toutes les conditions, Hawaï était réunie pour que ça s'enflamme, et ça s'est enflammé.
C'est sûr que si tu dis que c'est à cause des changements climatiques, tu ne pourras rien faire. Fait que, t'sais, au moins, si tu trouves la vraie source, comme tu es en train de dire là, Rénal, au moins tu peux combattre, faire quelque chose, à prévenir pour l'avenir.
Oui, en fait, l'homme, avec ses pratiques, peut changer certaines zones climatiques. Je pense, par exemple, au Kilimandjaro en Afrique. On dit que le Kilimandjaro a perdu ses neiges éternelles au-dessus, là. Mm-hmm. Bon, pourquoi c'est arrivé? C'est pas à cause des changements climatiques, c'est à cause de l'activité humaine. À la base du volcan du Kilimandjaro, on a déforesté, on a pratiqué de l'agriculture, et ce faisant, on a changé les conditions climatiques à la base du volcan. Donc, s'il pleut moins, beaucoup moins, au bas du volcan, il neigera plus ou très peu en haut du volcan. Puis pour qu'un glacier puisse subsister, puis avancer, puis progresser, il faut deux conditions. Il faut un approvisionnement en neige, puis il faut des températures basses. Alors, au Kilimandjaro, on a changé une de ces conditions-là, et ça n'a rien à voir avec les changements climatiques. C'est l'action humaine qui est la cause de ça. Et puis, pour les glaciers, moi, j'ai pas d'expérience personnelle sur les glaciers, à part le glacier Fox en Nouvelle-Zélande, sur lequel j'ai marché en 2011, que je suis allé au fameux tremblement de terre de Christchurch. Là, je suis allé voir le glacier Fox. Écoutez bien, ce glacier-là avance de 1 mètre à 1 mètre et demi, par année, par jour.
Par jour? Hein? OK.
Quand j'y étais, il avançait. Certaines années, il recule. Et ça dépend de l'approvisionnement en neige à la source du glacier. Donc, il y a des leçons à tirer de ces catastrophes naturelles-là. Il faut arrêter d'accuser les changements climatiques. C'est l'excuse la plus facile que les gens peuvent avoir, autant les politiques que les médias, pour expliquer certaines catastrophes qui sont dans le fond tout à fait naturelles, mais causées par la négligence humaine.
Puis pendant ce temps-là, si on reste les changements climatiques, on n'avance pas. Parce que...
Ouais. Je vais dire aux auditeurs, parce que je ne vais pas intervenir à toutes les semaines là, cette saison, je vais intervenir aux deux semaines. Mm-hmm. On va parler beaucoup de changement climatique, on va parler de CO2, on va parler des politiques des gouvernements, on va parler des fameuses COP et réunions. Ouais. Moi, les conférences sur le climat, moi, je vais au moins à une conférence à chaque année. Mm-hmm. Et puis, j'apprends des nouvelles choses à chaque année. On découvre des nouvelles choses. Et puis, une nouvelle rassurante en terminant, la Floride a accepté un matériel pédagogique pour les jeunes de primaire qui va donner la contrepartie au climato-alarmisme. Autrement dit, on va montrer des choses aux jeunes qui leur montrent l'autre côté de la médaille. C'est une première, je pense, en Amérique.
Ah, OK.
Très intéressant.
Oui.
Moi, je souhaite qu'on ait du matériel comme ça dans nos écoles bientôt pour qu'on arrête de faire peur aux jeunes avec les changements climatiques.
Bien, c'est surtout pas dans une école qu'il faut faire peur aux jeunes. Il faut les apprendre, faut les instruire de toutes les possibilités.
Pour développer leur curiosité pour qu'ils fassent leur propre recherche puis qu'ils tirent leurs propres conclusions et non pas se les faire imposer.
Exactement.
Très sage.
Rénal Dubergé, merci beaucoup pour cette première chronique de la saison. On se donne rendez-vous la semaine prochaine?
Non, dans deux semaines.
Dans deux semaines?
La semaine prochaine, je vais être à Paris.
Exact. Oh, OK. Donc, ouais. un bon voyage. On se reparle dans deux semaines.
OK. Merci. Bonne semaine.
Rénal Dubergé, le moustique qui effectue son retour. Et